Vous écoutez
RMC. Face à face.
Il est 8h29 sur RMC et BFM TV. Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On a encore besoin de vos lumières parce qu'on n'y comprend plus rien. Je voudrais savoir où est-ce qu'on en est de cette guerre qui est officiellement une non-guerre. On nous parle d'un cessez-le-feu, mais on voit que ça a continué à frapper et à frapper dangereusement ce week-end, notamment aux abords d'une centrale nucléaire sur les Émirats Arabes Unis. Vous diriez quoi, Gilles Kepel, pour commenter ce qu'il se passe aujourd'hui, pour définir ce qu'il se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans un état de guerre là-bas? Qui sont les protagonistes? À quel endroit est-ce que vous mettez le curseur de la définition entre guerre, paix, cessez-le-feu?
Ben en fait, ce qu'on voit, c'est que le monde a complètement changé. On n'est plus dans ce que Hubert Védrine appelait l'hyperpuissance américaine. Vous voyez, autrefois, après la chute du mur de Berlin, il n'y a plus d'empire soviétique. Le président des États-Unis a la capacité de soutenir ses alliés, de liquider ses ennemis, de mener des opérations étrangères et ça. Et il n'y a pas véritablement de force de résistance. Aujourd'hui, et c'est ce qui a été très visible lors du sommet sino-américain à Pékin la semaine dernière, Donald Trump arrive, il n'a plus véritablement la capacité de transformer ses décisions en actions sur le terrain, et il est allé demander à Xi Jinping de lui donner un coup de main, notamment pour ouvrir le détroit d'Hormuz, et l'autre lui a dit « Attendons un peu, laissons un peu saigner Trump, et on verra quand je retournerai, quand on se reverra. »
Donc il en revient pour vous, bredouille ?
Assez largement, oui. Et c'est un problème pour lui aussi à l'intérieur, puisque sa cote de popularité s'effondre, y compris dans les milieux conservateurs qui votaient pour lui, non seulement chez les indépendants, les démocrates. La perspective qu'il remporte les élections de midterms à la Chambre des représentants est aujourd'hui très très faible. Et aujourd'hui, la question, c'est s'il va aussi perdre le Sénat, c'est-à-dire que ces deux dernières années sera une présidence encore plus affaiblie. Et dans ce contexte-là, il n'a pas été capable, d'une certaine manière, de transformer l'essai en Iran. On était au début tous convaincus, moi compris, que la décapitation du régime, la mort de Khamenei, etc., allait amener une transformation très rapide. Mais en réalité, les gardiens de la révolution avaient préparé le terrain.
De, pour chaque personne éliminée, une autre prenait la place, comme si tout cela avait été organisé de manière mécanique, préparé, anticipé.
Voilà. Et donc là, d'une certaine manière, le système américain se trouve en plein désarroi, si vous voulez. Ajouter à cela les rodomontades permanentes, etc. Le contraste était très frappant.
Les rodomontades, on va y revenir, avec à nouveau, hier soir, des menaces de Donald Trump, mais on ne sait plus s'il faut les prendre ou non au sérieux. Mais vous avez dit, le monde a changé. On va revenir aussi sur la question de la façon dont le monde s'organise, trouve de nouvelles routes, y compris pour le pétrole et le reste, face à cette fermeture du détroit d'Hormuz. Mais je percevais derrière votre expression, le monde a changé, une sorte de redistribution des cartes des puissances.
Oui, justement. Alors, c'est quelque chose sur laquelle vous n'êtes pas la seule à vous poser des débats. C'est un vrai questionnement. On aura demain soir avec Bruno Tertrais, d'ailleurs, un débat là-dessus sur la guerre. Qu'est-ce que c'est exactement?
Ça devient même un sujet. Oui, oui. En effet, demain soir, vous serez au Théâtre Marigny avec Bruno Tertrais, qui est un autre de mes invités réguliers, pour essayer de comprendre précisément ce qui se joue, pour débattre de ce qu'est la guerre aujourd'hui. C'est quoi la guerre aujourd'hui? C'est aussi la question que je vous pose.
Voilà. Ça n'est plus ce que c'était autrefois. Et ça, c'est la seule certitude qu'on peut avoir. Avec, par exemple, la prolifération des drones. C'est-à-dire que les États-Unis ont lancé cette guerre avec des moyens massifs, mais en réalité, et ça s'est vu notamment dans le Golfe, et ça c'est l'un des enjeux les plus graves aujourd'hui, les pays du Golfe, les pétromonarchies comme on dit, ont payé des fortunes pour que les Américains mettent des intercepteurs, des missiles de croisière, des missiles interbalistiques, etc. Et le résultat, c'est que ceux-ci ont été impuissants face aux flottes de drones envoyées par les Iraniens.
On a l'impression qu'on a basculé déjà au moment de la guerre en Ukraine, c'était très frappant, d'un monde où on nous parlait de la bombe atomique et ceux qui détenaient la bombe atomique en gros étaient à l'abri de tout, à une période où on s'est rendu compte que la guerre c'était encore des tranchées, c'était encore des êtres humains que l'on envoie au front et qui meurent au front. Et puis on est passé là avec la guerre en Iran à la question des drones. Au fond, on a l'impression que nous on s'était préparé à une guerre justement sur le plan atomique, j'allais dire, atomique ou missile. Et on se retrouve, au fond, avec face à nous des drones qui sont incroyablement efficaces, plus efficaces peut-être que tous les sous qu'on avait mis dans le développement d'armes balistiques beaucoup plus fortes.
Et qui valent le prix d'un vélo. Mais ceci n'est pas incompatible avec cela, puisque justement c'est l'Ukraine qui va être capable de construire des machines anti-drones, puisque les Russes utilisent des drones iraniens justement pour taper sur les Ukrainiens et notamment sur les civils, et qui ensuite vont vendre, les Ukrainiens vont venir vendre ça aux Saoudiens et autres qui se trouvent confrontés à ce que et ça c'est quelque chose qu'on n'est pas encore sûr, mais le cessez-le-feu du 8 avril qui intervient alors qu'il n'y a pas eu véritablement d'avancée sur le terrain pour les Américains et leurs alliés, c'est aussi parce que les armements hors de prix sont épuisés. Et il n'y a plus d'intercepteurs. Et donc, on 10 pouces, vous avez mis tout à l'heure, on cessait la guerre, c'est un cessez-le-feu dans lequel on se tape dessus, parce que les moyens conventionnels ne sont pas là. Mais drone et atomique, ça n'est pas forcément incompatible, justement.
C'est comme s'il y avait deux niveaux désormais de guerre.
Oui, mais que vient-il de se passer à Abu Dhabi ? La centrale nucléaire civile qui a été construite par les Coréens, qui est entrée
à Baraka, le centre nucléaire de Baraka, ce sont les Émirats Arabes Unis, effectivement, qui dénoncent, donc je cite, une frappe de drone qui a provoqué un incendie aux abords de la centrale nucléaire de Baraka dans l'ouest du pays. Et d'ailleurs, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, exprime sa profonde préoccupation. Qu'est-ce qui s'est passé là ?
Alors, disons que là, il s'agit effectivement d'un drone qui a mis le feu à un bâtiment annexe, un générateur électrique, je crois. Bon, ça ne représente pas le danger de l'apocalypse nucléaire, de l'explosion centrale. Mais c'est un signe que l'on sait. Bien sûr, personne ne revendique l'avoir envoyé. Je ne sais pas s'il est venu de l'Iran ou d'un mandataire quelconque de la région, peut-être d'un
L'Irak
groupe chiite pro-iranien du sud de l'Irak. C'est pas compliqué. Mais c'est un signe très fort. C'est-à-dire que quand on dit à l'Iran il faut que vous rendiez votre stock nucléaire, Trump a dit qu'il allait le prendre et l'emmener aux États-Unis. Il est un peu en dehors de la réalité, je crois, en disant ça. Là, l'Iran réplique, tiens, à propos du nucléaire, il y a un enjeu de l'autre côté. Et il faut bien voir que ce sont les Émirats qui ont été visés, puisque ce qui se passe aujourd'hui et qui est très important, c'est que le front du Golfe, qui était relativement uni, de ce qu'on appelle les pays du Conseil de coopération du Golfe, pays arabes, aujourd'hui, face à l'impuissance américaine, sont en train de chercher d'autres solutions, des solutions qui s'ajoutent à celles-ci. Les Émirats notamment, qui sont les seuls avec le Bahreïn à avoir signé les accords d'Abraham, c'est-à-dire des accords avec Israël, se sont de plus en plus tournés vers les Israéliens pour apporter leur protection. Et ont fuité dans la presse des informations la semaine dernière que M. Netanyahou s'était rendu aux Émirats en secret au mois de mars, ce qui a fait un grand scandale. Pourquoi lui a-t-il fuité ça ? Parce que il est en campagne électorale, il a appelé les élections anticipées en Israël en août, et donc il a besoin de montrer à son électorat qu'il n'est pas tout seul et qu'il a un certain nombre de pays arabes avec lui. Évidemment, aux Émirats, on n'a pas particulièrement apprécié parce que...
Ils n'ont pas tellement intérêt à ce que ça se
sache. Évidemment, les Iraniens en ont immédiatement profité pour dire, vous voyez, c'est une alliance inacceptable, etc. Et donc, on a le dôme de fer, c'est-à-dire le système de protection israélien qui a été implanté aux Émirats, parce que les Émirats n'ont plus confiance dans le seul parapluie américain.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de redistribution des cartes ? Vous évoquiez les accords d'Abraham, ces accords d'Abraham qui étaient en train de se mettre en place avant le 7 octobre, qui a évidemment balayé tout ça. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont en train de se reconstituer ?
Alors, pas partout, puisque quand les Émirats et le Bahreïn sont plutôt de ce côté-là, à l'encontre de cela, l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui pourtant ne s'entendaient pas autrefois, se sont eux plutôt installés dans une politique d'accommodement avec l'Iran. Et précisément, se sont rapprochés de la Chine, qui a montré lors du sommet de Pékin qu'ils avaient la capacité, eux, d'agir sur l'Iran.
Puisque vous évoquez l'Arabie Saoudite dit cette nuit avoir intercepté 3 drones en provenance d'Irak et dit même qu'elle pourrait réagir. Le ministre de la Défense se réserve le droit de riposter au moment et au lieu approprié. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là ?
Oui, de toute façon, ils ne peuvent pas dire autre chose. Il faut qu'ils manifestent à leur population qu'ils sont en capacité de se défendre.
Mais pourquoi l'Irak ?
Non, parce que en Irak, vous avez des milices chiites qui ont échappé assez largement au contrôle du gouvernement, qui sont en réalité manipulées par les Iraniens. Donc, quand les Iraniens veulent attaquer une cible sans qu'on leur impute la responsabilité...
Ils le font de manière indirecte,
au fond. Voilà, on dit aux Hezbollah irakiens ou à les milices dites de la mobilisation populaire, al-Hashd al-Sha'abi, de tirer et comme ça, on peut être dans ce qu'on appelle le déni. On dit c'est pas
mais,
nous.
Mais quel est l'intérêt, puisque vous, si je suis bien à ce que vous êtes en train de nous expliquer, on a justement l'Arabie Saoudite et le Qatar qui, au fond, sont en train de se dire bon, l'Iran, de toute façon, on n'en viendra pas à bout, il va falloir vivre avec. Si l'on renvoie ce type de drone, alors certes, en disant c'est l'Irak qui l'a fait, pas exactement nous, est-ce que ça n'est pas une manière, au contraire, de se les remettre à dos de la part de l'Iran ?
Oui, ou bien de maintenir la pression et de faire en sorte que, de toute façon, il n'y aura pas d'autre solution que de trouver l'accommodement. Parce qu'il faut bien voir qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui n'a pas bougé. Et les Chinois, là-dessus, ont dit on ne va pas aider, c'est le détroit d'Ormuz.
C'est-à-dire au moment où l'on se parle, il est totalement fermé.
Voilà, alors, il est plus ou moins totalement fermé, puisque à la suite de la rencontre Trump-Xi Jinping à Pékin, donc les Iraniens ont dit, bon, on laisse passer les bateaux amis. C'est-à-dire que le principal problème qui était qu'il n'y avait plus de gaz naturel liquéfié ni de pétrole qui arrivait en Asie, tout ça est en train d'être résolu, puisque les Iraniens les laissent passer à leurs conditions, et on voit mal le contre-blocus américain derrière, empêcher le passage de bateaux qui vont soulager la situation en Asie, puisque sinon c'est Trump qui emporterait la responsabilité. Donc vous voyez qu'il y a un jeu qui est extrêmement subtil là, et qui s'inscrit surtout dans la montée en puissance chinoise.
La montée en puissance chinoise met toujours cette menace. Encore une fois, vous le disiez, il y a une forme de gesticulation de la part de Donald Trump. On ne sait plus s'il faut croire ou non ces menaces. Donald Trump qui, hier soir, a adressé une nouvelle mise en garde à Téhéran. Pour l'Iran, le temps presse, il ferait mieux de se bouger vite, vite écrit en lettres capitales. Sinon, il ne restera plus rien d'eux. Le temps est compté, là encore en lettres capitales, avec plusieurs points d'exclamation derrière. Et on apprend que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est aussi entretenu donc avec Donald Trump. Est-ce qu'il faut imaginer une reprise éventuelle des frappes à proprement parler pour sortir de ce qu'on était en train de définir ensemble comme une sorte de faux cessez-le-feu?
Ben, c'est très difficile comme pari pour les Américains, puisqu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour frapper et le résultat n'a pas été probant. Alors, si de frappe il doit y avoir, elles doivent trouver ce qui va permettre de d'amener l'Iran à la négociation.
Qu'est-ce qui reste comme
pour l'instant? Il n'y a pas grand chose, puisque la disproportion entre les armements est flagrante, et le fait que on n'ait pas trouvé du côté occidental, du côté américain en tout cas, ou israélien, une réplique efficace aux flottes de drones pose un véritable problème. Vous avez par exemple, il y a aussi un autre drame qui se déroule, on en parle malheureusement trop peu, qui est la catastrophe qui est à la frontière israélo-libanaise. C'est-à-dire que vous avez donc une zone de sécurité qui a été construite par Israël dans le sud, des bombardements quotidiens qui touchent des cadres du Hezbollah, mais aussi une population qui est obligée d'être déplacée, de fuir, et en même temps, le Hezbollah qui a trouvé désormais des drones sans... filaires à fibre optique qui valent 350 euros.
Oui, vous disiez, c'est le
moins
prix d'un
cher
vélo,
qu'un
quoi.
Vélo. Oui, c'est ça, un vélo en solde, et qui sont indiscernables et qui tuent des soldats israéliens qui sont là, des hélicoptères, etc., et qui menacent aussi le nord de
Et là encore, il y a un décalage effectivement entre les mots et les faits, puisque officiellement une trêve entre Israël et le Liban a été reconduite pour 45 jours, sauf que, vous le disiez, des frappes israéliennes encore dimanche ont tué 7 personnes, dont un des chefs du djihad islamique palestinien visiblement présent sur le sol libanais. Le Hezbollah dit avoir tiré 200 projectiles, hein, c'est ce que vous citiez à l'instant, sur Israël ces tout derniers jours, sur Israël et sur les troupes israéliennes. Au fond, ça ne s'arrête pas.
Non, et ça ne s'arrête pas précisément parce que, si vous voulez, le logiciel des États-Unis est encore un logiciel qui date.
Le système
Trump ne s'est pas adapté aux défis d'aujourd'hui. Et c'est ça toute la difficulté.
Évidemment, la question du logiciel Trump, on va revenir aussi sur ce qu'il propose éventuellement comme une négociation, mais enfin, visiblement impossible d'un côté ou de l'autre d'accepter ce que propose l'adversaire. Mais une question quand même sur ces fameux 200 projectiles tirés ces dernières heures sur Israël. On a du mal à comprendre que dans la situation actuelle, le Hezbollah ait pu reconstituer ou constituer, ça veut dire qu'il avait des stocks considérables, malgré des années où Israël quand même régulièrement tape, malgré l'affaire des beepers, comment ça passe, pardon, c'est presque, comment ça arrive?
Alors ça, c'est la grande question, c'est-à-dire qu'on n'a pas de la certitude.
J'imagine que, alors vous dites c'est le prix d'un vélo, mais enfin j'imagine qu'il faut quand même le transporter ce drone, il n'est pas fabriqué sur place dans le sud du Liban.
Alors cela, semble-t-il, c'est faisable, enfin sinon dans le sud du moins à Beyrouth. Vous avez quand même tout le sud de Beyrouth et une grande partie du sud du pays qui est chiite, et parmi lesquels, dont tout le monde n'est pas pro-Hezbollah, mais le Hezbollah dispose quand même de ressources, notamment parce que c'est un conduit qui amène les financements iraniens à des populations qui sont souvent assez déshéritées et qui ont ça comme moyen de subsistance. Mais ce qui s'est passé effectivement, c'est qu'on n'imaginait absolument pas qu'après, vous avez évoqué l'affaire des beepers en septembre 2024, il faut rappeler donc que les Israéliens avaient piégé des beepers ou des pagers du Hezbollah, et quand ils les ont déclenchés, presque tout l'establishment, au niveau des officiers et des sous-officiers du Hezbollah, ont été éliminés ou incapacités. Ensuite, le cheikh Nasrallah a été tué, etc. Mais comment les gardiens de la révolution ont-ils réussi à reconstituer, sans qu'on le sache, le Hezbollah et à en faire de nouveau une menace terrible pour Israël? Ça, c'est une vraie question que, justement, les services de renseignements occidentaux et israéliens eux-mêmes, directement concernés, n'ont pas été capables d'anticiper.
Ils n'ont pas changé le logiciel, ils n'ont pas vu ce monde aussi évoluer, et ils continuent à faire des idées de négociation qui sont quasiment impossibles. Et c'est pour ça qu'on a du mal à imaginer comment ça va se terminer, cette histoire. Washington exige notamment que l'Iran ne maintienne qu'un seul site nucléaire en activité et transfère son stock d'uranium, les fameux 450 kilos d'uranium enrichi, sur le sol américain. On imagine bien que ça, c'est impossible.
Non, ça, c'est quelque chose qui est l'aboutissement d'une capitulation, mais ça ne peut pas être le début d'une négociation. Mais là, on est obligé de se dire que l'équipe américaine est bonne pour les deals immobiliers, mais c'est pas tout à fait de ça dont il s'agit. Et ça pose un véritable problème. Comment est-ce que les démocraties occidentales en arrivent à confier leur destin à des gens qui ne sont pas efficients pour le faire, qui ne savent pas ce que c'est? Face à cela, vous avez des négociateurs iraniens qui sont du pays qui a inventé le jeu d'échecs et qui sont parfaitement formés, si vous voulez, et peuvent transformer leur faiblesse en force. Et c'est ça qui est très frappant, c'est cette espèce de Gulliver empêtré, si vous voulez,
des États-Unis. Voilà. Américain face, effectivement,
aux Perses. C'est une question fondamentale, et c'est bien pourquoi, si je puis me permettre, faire un peu de publicité, on va essayer d'en débattre,
C'est votre seconde promo, mais allons-y, assumez-le. Voilà. Effectivement, vous débattez sur la guerre demain soir avec Bruno Tertrais, ce sera au théâtre Marigny. Gilles Kepel, merci d'avoir été avec moi ce matin, professeur émérite des universités, spécialiste du Moyen-Orient, et donc demain soir sur la scène du théâtre Marigny. Désormais, la guerre, effectivement, on en débat, y compris dans les théâtres. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.